Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission Club de la Presse. Vous le savez très bien, déjà à partir de 11h, nous démarrons cette émission et c'est parti pour 90 minutes. Après la mise en place alors de son bureau et l'adoption de son règlement intérieur, le Sénat a ouvert officiellement hier, jeudi, à Lomé, sa première session ordinaire de l'année. Une cérémonie officielle conduite par le président de l'institution, Barry Moussa Barry. Qui a réuni pour l'occasion plusieurs officiels parmi lesquels le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale ainsi que des invités de MAC. Selon le président de l'institution, il ne s'agit pas simplement d'un événement protocolaire, mais d'un moment fort, porteur d'espoir dans notre cheminement démocratique, a-t-il déclaré dans son allocution d'ouverture. Nous parlerons du sujet dans cette émission. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité dans notre pays, également hors de nos frontières et également dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 4 avril 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sousa sur la mise en onde, Géraud Akoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Amiho, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul, nous sommes à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio et aussi des analystes politiques en studio avec nous. Il y a Monsieur Kofi Annani qui est là. Monsieur Kofi Annani, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM.
Merci de m'avoir invité. J'espère que vous allez bien.
Je vais très bien par la grâce de Dieu.
Par la grâce de Dieu, nous implorons toujours cette grâce et nous savons que cette grâce nous fait toujours du bien. Et ça fait du bien à Gabin Adjaro aussi. Gabin, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes juriste et analyste politique aussi. Nous vous invitons dans cette émission pour décrypter l'actualité avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi.
Et l'autre également qui est nouveau sur le plateau et qui va désormais composer avec l'équipe de vendredi, c'est Samir Ourosama. Bonjour Samir.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux qui nous suivent, disons, dans cette journée, un peu partout à Lomé, la capitale et dans les localités environnantes.
Samir, vous étiez journaliste et voilà, et après tout, aujourd'hui vous êtes juriste et aussi défenseur des droits humains. Ah ben, ça, entre journalisme et défenseur de droits humains, je pense quand même qu'il n'y a qu'un seul pas, hein?
Absolument, parce que d'abord le journalisme, c'est une fonction d'engagement. Donc, et être défenseur des droits humains, je pense que le travail des deux fonctions se croise quelque part, toujours.
Le travail se croise toujours quelque part et ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission.
C'est toujours un plaisir.
Merci de rejoindre l'équipe pour cette merveilleuse aventure. Et l'autre qui est de la BAC depuis, et c'est celui-là que nous dénommons, enfin nous appelons tous ensemble, chroniqueur politique, c'est bien Firmin Teko Agbo. Bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
C'est vrai qu'il y a quelqu'un des gens, il y a certains qui écoutent alors ta voix, que tu es parmi les invités, il y a certains qui sont joyeux et d'autres se disent, mais pourquoi on l'a encore invité?
en fait, c'est le charme de la démocratie. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, lorsque tu choisis de critiquer des gens, attends-toi à ce qu'on te critique. Et donc, pour moi, quand on me critique pas, ça ne me fait pas du bien. Parce que c'est comme je me dis, je n'ai rien fait. Parce que mon intention, c'est de faire sortir mes idées et qu'on les critique pour que je puisse m'améliorer. Parce que les critiques, on en a tellement besoin. Je ne suis pas Dieu. Même Dieu, on l'a critiqué. Il y a des gens qui continuent de le critiquer. Donc, je n'ai pas l'évangile. Je n'ai pas la vérité. Jésus, même, il est venu avec la vérité. Mais il y a des gens qui l'ont cloué à la croix. Donc, on n'a pas la vérité. Donc, je n'ai qu'une petite, peut-être une petite partie de la vérité. Il y a d'autres qui ont la vérité. Il y a d'autres qui voient les choses mieux que moi. Et donc, parmi ceux-là, on peut retrouver ceux, les auditeurs qui nous appellent. Des gens qui me critiquent avec véhémence et tout ça. Moi, je les accepte avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Mais ce que moi, j'épingle souvent, c'est de s'attaquer à ma personne. Et là, quand on s'attaque à ma personne, moi, je n'aime pas ça.
Et personnellement, je n'accepterai pas qu'on s'attaque à qui que ce soit aussi, ou à la personne, alors de qui que ce soit ici au plateau. Parce que, étant donné que je suis le modérateur, je suis là pour défendre mes invités et défendre aussi les auditeurs. C'est là où le rôle devient un peu difficile.
Oui, vous êtes là pour nous tous, et vous devez tous nous protéger. Mais que les gens, ça, ce que j'ai remarqué aussi et que je dénoncerai toujours, c'est que nous avons le Togo même dans son ensemble a opté pour la pensée unique.
Comment ça?
Oui, le Togo dans son ensemble a opté pour la pensée unique. Vous savez, du temps du général, on disait que la pensée unique, c'était pas bien. Donc, il faut faire venir la démocratie. Donc, on a fait venir la démocratie. La démocratie est venue. Donc, ceux-là qui critiquaient le général, il y a des mois, on dit non, il faut plus soutenir le général. Il y a des mois, il faut nous soutenir. Il a dit, c'est la pensée unique, mais qui a changé de couleur, en fait. Donc, quand vous applaudissez un peu ce que le pouvoir fait de bien, donc, ceux-là qui sont dans l'autre camp vous disent non, c'est pas bien, que vous devriez plutôt applaudir, alors qu'ils devraient même être contents parce que c'est les divergences d'idées qui s'expriment. C'est-à-dire ceux qui ont opté pour la démocratie au Togo devraient même applaudir ceux qui critiquent le pouvoir et ceux qui les critiquent aussi. Et ceux qui applaudissent le pouvoir et ceux qui les applaudissent aussi. Maintenant, ici, dans nos émissions et dans toutes les émissions, presque, quand vous émettez une idée qui est contraire à celle que pourraient émettre les auditeurs, alors vous êtes foutus. On vous traite de vendu, de tous les noms d'oiseaux. Eh bien, c'est ça qui n'est pas bien pour notre démocratie. Mais moi, je dis simplement une chose. Et avec beaucoup d'engagement, il y a des gens qui disent souvent que, même ici, il y avait quelqu'un qui avait dit l'autre fois ici que, bon, si c'est Fonia Singbe qui l'a envoyé, il parlait de Firmin, et si c'est Fonia Singbe qui l'a envoyé, donc il a dit à Fonia Singbe que c'est comme ça, c'est leurs opinions. Et moi, je dis donc, si on doit émettre une idée, il faut forcément quelqu'un derrière, c'est ce que je trouve déplorable. Et l'autre chose, des gens qui pensent que lorsque tu t'exprimes et tu défends peut-être une idée, et que peut-être on t'a donné de l'argent, et moi je dis aujourd'hui, hein, si vous trouvez un endroit où on distribue de l'argent et on remet une idée aux gens pour aller défendre, alors montrez-moi cet endroit-là et montrez-moi la personne. Moi, si je veux aller chercher l'argent.
Alors, en fait, quand on prend l'émission Club de la Presse, vous savez, c'est toute une plateforme où toutes les opinions s'expriment. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela même, d'ailleurs, que déjà avec le principe de l'émission, nous donnons la parole à nos auditeurs parce que nous n'avons pas la science infuse. Nous qui sommes également sur le plateau, nous n'avons pas la science infuse. Nous donnons notre point de vue sur des sujets de l'actualité. Et c'est pourquoi nous efforçons quand même que ça soit dans la courtoisie possible. Et quand nos auditeurs aussi appellent, nous veillons à ce que ça soit aussi dans la courtoisie possible. J'aime bien hein, ce propos quand on dit que même si je ne suis pas d'accord avec toi, je ferai de mon possible quand même pour que tu exprimes ton idée, pour que tu exprimes ton opinion. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand nous voudrons construire même d'ailleurs un pays démocratique, il faudrait quand même qu'on laisse l'opportunité à l'autre alors de s'exprimer, surtout dans la courtoisie. Nous essayerons toujours de le faire. C'est ça aussi le bien fondé, hein, l'élément fondamental même d'ailleurs de cette émission. Et nous le ferons toujours, nous veillerons toujours à ce que ça soit effectif. Merci, hein, Firmin, merci d'avoir accepté aussi notre invitation.
Oui, mais merci aussi, c'est tout un honneur. Mais ça me rappelle une idée, un jour je devais organiser une conférence, c'était dans la commune de Golf 5, et puis il y avait quelqu'un qui venait de garer une moto et puis m'a dit, mais c'est toi Firmin, t'es quoi? Tu sais, moi je ne suis souvent pas d'accord avec toi, mais j'aime t'écouter, mais il faut que je me prépare pour ne pas avoir ABC.
C'est bien sûr, je sais qu'il y a des auditeurs qui se sont préparés pour ne pas avoir l'AVC. D'accord, alors merci d'avoir accepté l'invitation. Alors on commence cette émission avec ce sujet, c'est sur l'intelligence artificielle. Et hier, il y a le président de la République qui a participé à Kigali à cette rencontre hein, sur l'intelligence artificielle. On va revenir là-dessus. Il y a le journal, puisqu'il y a des journaux qui sont revenus sur le sujet, on va en parler. Il y a le journal Togo Réveil qui écrit « Kigali, sommet mondial sur l'Afrique et l'intelligence artificielle » et avec la photo du président de la République à la une. Et ça, c'est une rencontre où les uns et les autres, surtout des chefs d'État, des chefs de gouvernement et aussi des invités de marque se sont retrouvés pour parler de l'intelligence artificielle. Et, Kofi, finalement, ça prend tellement d'ampleur, cette question d'intelligence artificielle. Ça veut dire que finalement, on ne peut pas se débattre de ce débat aujourd'hui de l'intelligence artificielle.
Merci Pascal. Je pense que ça devient une question non seulement pour les pays de l'Europe ou de l'Amérique, mais ça devient une question mondiale. Et je me réjouis du fait que les chefs d'État africains se mettent à l'œuvre déjà en ce moment-là. Et je voudrais, par cette opportunité-là, jeter des fleurs au chef de l'État pour son engagement, pour le rôle déjà primaire qu'il est en train de jouer dans l'avancement de cette histoire de l'intelligence artificielle. Je pense que avec la ferveur qu'on donne à cela dès le départ, si on s'y met vraiment, nous allons pouvoir rattraper beaucoup de choses qu'on a perdues depuis des années.
D'accord. Oui, Gabin, oui. Finalement, est-ce que vous avez l'impression que nous avons les outils nécessaires pour rentrer dans la danse de l'intelligence artificielle?
Oui, je peux dire que nous avons les outils nécessaires. Vous savez très bien qu'en Afrique de l'Ouest, le Togo fait partie des premiers pays hein, informatisés en Afrique de l'Ouest. Et on a même vendu de l'Internet à certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, au fil du temps, on peut dire que le Togo progresse dans cette catégorie-là. Sauf que je pense que les choses sont en train de prendre le pas sur nous. Par exemple, quand nous prenons les Européens qui développent d'autres stratégies, d'autres plateformes et autres là aujourd'hui, nous sommes obligés de suivre quand même la cadence, même si nous n'avons pas tous les outils qu'il faut. Je pense qu'on a le nécessaire pour avancer maintenant. Ça ne doit pas rester juste au niveau des gouvernants, hein, parce que ceux-là qui font quand même l'implémentation de la technologie, ce sont les populations qui doivent véritablement comprendre l'importance, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes pensent qu'avec l'IA on va se débarrasser des humains ou autres, bon, les gens ne seront plus recrutés dans certains emplois, alors que ça apporte quand même quelque chose de beaucoup plus pour pouvoir alléger les tâches aux populations. Donc, il faut véritablement faire en sorte que les gens arrivent à comprendre. C'est vrai, le chef de l'État, il va dans ses sommets. Déjà, on a organisé un sommet à Paris, ensuite aujourd'hui à Kigali. Bon, je pense que c'est une très bonne chose, mais qu'on fasse tout pour pouvoir distiller les informations, qu'on ventile l'information pour que la population sache véritablement ce que c'est que l'IA et que dans quelle mesure on va pouvoir l'implémenter. On est en train de parler de la carte biométrique et autres. Je pense que ce sont des choses qui vont faire en sorte que les populations puissent se sentir bien à l'aise dans ce qu'ils font. Maintenant, il y a déjà des gens qui sont aguerris dans le domaine technologique, technique, dans la réparation des appareils portables et autres là. Je pense qu'il faut accompagner beaucoup plus ces gens. Moi, je l'ai toujours dit, dès qu'aujourd'hui, même des appareils que les Blancs n'arrivent pas à décoder, n'arrivent pas à faire, je t'assure, si tu amènes ce portable aujourd'hui au niveau de Décon, un petit jeune va pouvoir régler ce problème-là pour toi. Moi, le plus important, c'est qu'on arrive à faire de ce secteur-là, de ce quartier, un village technologique, pourquoi pas, et qu'on arrive à donner de très bonnes formations à ces jeunes-là, qu'on arrive à les professionnaliser. Je pense que ça va régulariser beaucoup plus le secteur et ça en profitera beaucoup plus à l'État même. Donc, c'est toujours une très bonne chose de se mettre à jour. Le gouvernement fait bien les choses. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui aime véritablement la technologie. Il communique beaucoup plus par le biais des réseaux sociaux, par X et autres, là, par Facebook et même aujourd'hui par TikTok. Le chef de l'État communique. Donc, c'est quelqu'un qui se met au goût du jour et je pense qu'il va faire en sorte que les populations soient bien informées par rapport à cet outil l'IA. Il y a même des ateliers de formation que les journalistes vous organisez. Bon, je pense que ça va pouvoir vous aider. J'écoute, je prends toujours plaisir à écouter votre confrère Elon Matisse Ogbe, qui s'y connaît très bien dans ce domaine-là, vivement. Que l'État accompagne aussi les journalistes, parce qu'on parle quand on parle d'information, on parle des journalistes. Ce sont les journalistes qui doivent être chargés d'apporter l'information au niveau de la population. Donc, que l'État les accompagne, d'autant plus qu'ils maîtrisent déjà l'outil. S'il y a quelque chose encore à leur inculquer, qu'on arrive à le faire pour que bon, les populations puissent avoir accès à l'information par rapport à l'IA, et surtout qu'on s'occupe de ces gens de décon qui font déjà un très bon travail.
Vous l'avez dit, vous aimez écouter l'homme Matisse Ogbe qui s'y connaît dans le domaine. Il y a Germain Pouli également, hein, ah, qui oui. s'y connaît bien sûr alors dans le domaine. Il est même le directeur de communication pour Konia. Okay. Konia qui est une structure alors de l'intelligence artificielle et qui fait beaucoup d'activités sur le terrain. C'est surtout le continent. Oui, Samir, c'est vrai que quand on prend la question de l'intelligence artificielle aujourd'hui, oui, nous comprenons tous ensemble que c'est une opportunité pour nous, les humains, mais aussi beaucoup de gens se craignent de ce que ça doit constituer aussi de menace pour l'humain.
Ben écoutez, la question fondamentale que nous devons nous poser, nous, en tant qu'Africains, beaucoup plus précis en tant que Togolais, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, cette révolution technologique, apporte comme facilité dans nos tâches quotidiennes, apporte comme facilité dans nos différentes activités, et apporte comme facilité dans la mise en œuvre d'un certain nombre de solutions qui vont permettre donc aux citoyens que nous sommes de pouvoir vaquer librement à nos occupations, mais également de pouvoir répondre à un certain nombre de besoins dans nos différentes communautés. C'est ça le grand défi. Maintenant, les discours, c'est bien. Je sais que l'intelligence artificielle a toujours été considérée comme quelque chose d'élitiste. Maintenant, il faut désacraliser, il faut démocratiser cette technologie-là, de faire en sorte que cela soit un outil de base pour les populations. Les sommeils, c'est une bonne chose. Moi, j'ai toujours dit qu'en réalité, dans tous les domaines, avant que pour qu'une initiative ne prenne, il faut d'abord un engagement politique. Et je suis tout heureux de voir que les dirigeants africains essaient également de se mettre dans la danse, de s'engager véritablement sur ces questions importantes. Mais après, il faut faire face à la réalité. J'ai suivi le chef de l'État qui a dit dans son discours que dans le cadre ou dans le contexte togolais, l'IA est une bonne opportunité pour l'éducation, est une bonne opportunité pour notre santé, est une bonne éducation, est une bonne chose pour l'agriculture. Mais quand on revient dans notre pays, que nous regardons un peu l'état des lieux de notre système éducatif, beaucoup d'écoles n'ont pas d'outils informatiques. C'est vrai qu'au cours de ces dernières années, l'État a essayé de doter certaines écoles, certaines universités, certaines écoles de formation professionnelle de l'outil informatique. Mais le besoin est tellement immense que quand vous allez sur le terrain, notamment dans les localités un peu reculées, beaucoup d'écoles n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas accès à l'outil informatique. Dans ces conditions-là, comment est-ce que l'IA peut faciliter l'éducation des enfants dans ces zones-là? De la même chose dans le domaine de la santé. Quand vous regardez un peu, beaucoup d'écoles manquent d'infrastructures sanitaires. Beaucoup de localités manquent d'infrastructures sanitaires. Et donc, quand vous n'avez pas les technologies de pointe, parce que c'est ça, l'IA c'est aussi ça, avoir les technologies de pointe qui s'arriment véritablement à l'intelligence artificielle, avoir un personnel de santé mis à jour, dont on renforce leur capacité quotidiennement ou régulièrement. Et donc, quand vous avez un état de santé, je dirais pas que notre système sanitaire est assez mauvais, mais tout le monde reconnaît qu'il y a des problèmes dans le domaine de la santé, notamment en termes d'infrastructures, en termes d'accès aux soins et tout cela. L'agriculture également, au cours de ces 10 dernières années, l'agriculture est le domaine dans lequel l'État a beaucoup investi. Mais est-ce que nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire? Est-ce que dans les différents champs, dans les différents domaines de nos agriculteurs, est-ce que l'agriculture est modernisée Est-ce qu'ils utilisent les instruments de pointe véritablement? Est-ce que l'eau ne manque pas à ces agriculteurs là du moment peut-être qu'on est en période pluvieuse ou on est en période de sécheresse? Est-ce qu'on ne sent pas ce manque d'accès à l'eau potable, à l'eau qui leur permet véritablement d'irriguer leurs champs et tout ça là? Et donc ce sont des défis auxquels nous faisons face, sans compter que la connexion coûte cher au Togo. Ben, il faut qu'on ait le courage de le dire. La connexion est extrêmement chère au Togo. Et la connexion n'est pas du tout bonne dans certaines localités. Donc, c'est vrai, il faut afficher.
Avec l'IA, il faudrait quand même l'élément de base, c'est la connexion.
Absolument. Avec l'IA, il faudrait initier énormément de formations. C'est-à-dire qu'il faut mettre à jour les connaissances des personnes qui servent les citoyens dans les différents domaines. Mais il faut également équiper le Togo d'un certain nombre de matériels adéquats pour tenir compte donc de la tendance actuelle, mais au-delà, je pense que comme vous l'avez dit, le plus important, il faut avoir les infrastructures. Et donc, moi, je pense que la volonté politique affichée par le président de la République dénote donc de cette volonté de pouvoir améliorer un certain nombre de choses.
Merci Samy. Samy a évoqué un certain nombre de défis aujourd'hui. Est-ce que vous ne trouvez pas vraiment que sur le terrain, il y a tellement de défis de telle enseigne qu'aujourd'hui, si nous voudrons vraiment rentrer dans la danse de l'IA ou de l'intelligence artificielle, on aura toujours des difficultés?
Moi, je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que moi, je ne comprends rien de l'IA. Hein. Tout ce que vous dites là...
Vous ne comprenez rien.
Moi, je ne comprends absolument rien. C'est pour ça que je voudrais, avec notre centre de recherche, organiser une rencontre avec les étudiants et faire appel à Germain Poli pour qu'il vienne nous expliquer un certain nombre de choses. Parce que moi, sur ce point, je suis un grand primitif. Je ne comprends absolument rien. Et quand je vois, là, c'est la deuxième chose, quand je vois les chefs d'État au Rwanda, moi, je me dis, ils sont perdus.
Comment ça?
Oh, nos chefs d'État sont perdus. C'est comme, il y a quelqu'un qui est derrière le rideau et peut-être sort une idée et dit, confirmez-moi l'idée. Et maintenant, tous les chefs d'État sont en train de courir. Les chefs d'État sont en train de courir. Bon, moi, Fonia Singbe, il fait ce qu'il peut. Mais je me dis, il doit suivre le rythme du monde. Il y a des patrons du monde qui ont décidé, aujourd'hui, ils ont inventé l'IA. Alors qu'eux, ils avaient ça depuis. Hein. C'est parce qu'ils faisaient un certain nombre de choses au niveau de leur laboratoire. C'est parce qu'ils en ont suffisamment de résultats. Ils se disent maintenant, on a besoin de l'Afrique, du marché africain. Si l'Afrique ne s'adapte pas à l'IA, donc nous ne pourrons pas facilement avoir ce marché modernisé. Quoi. Donc, nous, Africains, on ne comprend absolument rien. Le chef d'État, bon, ils essaient de s'y conformer. Sinon, ils savent qu'en réalité, ils ne comprennent pas grand-chose. Parce que ceux qui ont inventé l'IA savent exactement là où ils vont. Mais nous ne savons pas exactement là où nous allons. Regardez, je ne sais pas si vous vous rappelez les années début 2000, tout ça, où on a commencé par avoir Internet et les cybercafés. Vous avez commencé à courir partout. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Les gens, ça court partout, quoi. On croit qu'il y a quelque chose. Parce que, alors que quand nous courons partout, c'est-à-dire nous enrichissons les banques occidentales. C'est-à-dire on va envoyer les ordinateurs, on va envoyer des choses. Et maintenant, il y aura Internet, tout ça là. Donc tout ce que nous faisons, nous enrichissons l'Occident, en fait. L'Occident aujourd'hui, encore a besoin de moyens, a besoin de notre marché. C'est pour cela, c'est l'Occident qui veut moderniser notre marché, c'est pas nous. L'Occident est en train de moderniser notre marché. L'Occident veut encore plus de production en Afrique. L'Occident veut encore d'Africains un peu plus instruits pour pouvoir venir travailler et chez lui. C'est pour cela qu'on est en train de faire tout ça. Mais la troisième chose, c'est que Fonia Singbe, oui, il a prononcé un très beau discours, tout ça. Oui, on peut l'applaudir. Mais moi, je veux le critiquer. Combien il investit, combien il injecte dans notre laboratoire, en ce qui concerne le numérique. Aujourd'hui, on voit qu'au niveau du numérique togolais, il y a assez d'efforts, assez d'engagement. Mais en termes de recherche, combien Fonia Singbe, lui, par exemple, il investit pour qu'à l'avenir, que quand les autres vont découvrir peut-être IA plus 1, que nous puissions aussi découvrir peut-être IA plus 2 ou IA plus 3. Combien? Moi, sur ce point, moi, je voudrais approcher à l'avenir, je vais approcher la ministre du numérique pour pouvoir lui demander combien Fonia Singbe investit dans la recherche. En réalité, tous les États africains, lorsqu'ils se rencontrent au niveau du sommet UA, devaient se dire, les gars, l'Occident est en train d'évoluer et met chaque fois ou sort régulièrement de nouvelles idées. Combien on peut investir dans nos recherches pour que nous aussi, qu'à l'avenir, nous subissions plus le coût du monde, le coût des Occidentaux, que ce soit nous qui découvrions. Mais si ça ne se passe pas comme ça, les Fonia Singbe sont en train de courir parce que les Occidentaux ont décidé. Hein, parce qu'ils se disent qu'en réalité, s'ils ne suivent pas la vague, ils vont être perdus. Ils sont perdus. Fonia Singbe, Kagame, ils sont perdus.
C'est votre avis, Jamais Poli, bonjour.
Bonjour. Pascal, bonjour à tous les confrères et invités.
Je le disais que vous, quand on parle alors de l'intelligence artificielle, si Firmin ne comprend rien, au moins vous comprenez quelque chose.
Oui, grâce à Dieu, depuis un peu plus de 2 ans, je comprends un peu mieux ce que c'est que l'intelligence artificielle, avec l'opportunité qui m'a été donnée quand j'ai été choisi comme directeur de la communication du Conseil international de l'intelligence artificielle, qui est une organisation internationale qui est basée sur les quatre continents, hein, avec des représentations en Chine, où j'ai pris fonction d'ailleurs, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France et en Afrique. Le siège Afrique est à la cité OUA ici. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir vraiment cet outil révolutionnaire et formidable qu'est l'intelligence artificielle. Et on a eu quand même à faire une formation aux journalistes togolais pour démystifier l'IA, pour savoir comment les journalistes peuvent utiliser l'IA aujourd'hui pour faciliter le travail. Je peux vous dire qu'il y a certains parmi nous qui le font. Je vais même vous faire peut-être suivre un reportage qu'on a réalisé même hier sur une de notre web TV où la voix est posée par une IA. Totalement attesté, on a quand même une journaliste qui fait le travail.
Mais oui, là aussi, jamais. Ouais. Est-ce que ça ne devient pas une menace pour nous, en tant que journalistes, pour exprimer notre talent?
Ce n'est pas une menace. Vous savez que la plupart du temps, le travail que nous faisons, par exemple, on a dit le chef de l'État était à Kigali pour le sommet. Plusieurs médias dans le nôtre ont repris, mais nous, on n'était pas à Kigali. Ça veut dire qu'on a repris l'information chez ceux qui étaient à Kigali. Et dans la plupart des informations que nous donnons sont des réécritures d'informations. 70% des informations dans les médias, ce n'est pas les rédactions qui sont allées les chercher directement. Ça veut dire qu'avec l'IA aujourd'hui, pour ce type d'informations, l'IA peut nous les écrire de façon beaucoup plus performante. Et le journaliste peut aller maintenant à la recherche de l'information. Quand je vais voir un artisan pour faire une interview, ce n'est pas l'IA qui va faire l'interview. Quand je vais rencontrer un innovateur pour qu'il me parle de ce qu'il fait, ce n'est pas l'IA. Et donc, nous aurons le temps d'aller nous-mêmes faire notre travail en réalité, qui est la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Donc, quand vous prenez ça comme ça, vous ne vous sentez pas du tout menacé par l'IA parce qu'il y a des choses que l'IA ne pourra pas faire. Et que même quand l'IA fait des choses, il faut aussi que l'homme soit là pour vérifier. Mais aujourd'hui, on a des IA qui sont tellement performantes que, ben, ils font tout. On a fait un test, par exemple, où je disais à mon monteur, trouvez une voix IA pour faire la voix sur ce reportage. J'ai une journaliste chez moi qui s'inquiétait, mais ça veut dire que vous n'allez plus utiliser ma voix. J'ai dit non, on veut juste tester. Et on a eu une voix impeccable. On demande à l'IA de nous trouver une voix avec un accent africain. C'est extraordinaire ce que ça peut faire. Maintenant, dans le domaine où le chef de l'État peut aller peut-être prôner sa stratégie là-bas, c'est une IA sélective et stratégique. Il a estimé qu'il y a 3 domaines dans lesquels on doit pouvoir utiliser l'IA pour qu'il y ait des bénéfices immédiats sur la population africaine. Le chef de l'État a ciblé la santé, il a ciblé l'éducation, il a ciblé l'agriculture. Aujourd'hui, il y a des possibilités énormes pour faire des diagnostics, pour faire des analyses, pour la télémédecine, tout ça. Vous pouvez être à Lomé et être traité par un médecin qui est en Asie ou partout. Et avec l'IA, il le fait. Au niveau des analyses, plusieurs enquêtes ont prouvé que les résultats des analyses fournies par les IA sont beaucoup plus précises que ce que l'homme fait. Le laboratoire lui-même cherche, il fait. Les marges d'erreur sont infimes. Au niveau de l'agriculture, aujourd'hui, il y a des pays déjà qui expérimentent, par exemple, l'utilisation des pesticides, par exemple. Voyez comment nos agriculteurs eux-mêmes utilisent ce produit-là sans se protéger avec toutes les maladies. Mais avec un drone aujourd'hui, on vous arrose totalement, on traite des hectares sans que humainement la santé de l'homme ne soit menacée. Avec l'IA, il y a des startups au Togo ici lors de la première édition de la semaine de l'intelligence artificielle. Il y a des Togolais qui ont inventé des IA qui vous permettent de faire des sélections des semences, de prévoir même les saisons. le plus, tout ça, à quel moment planter, quoi, la rentabilité, tout ça. Donc, c'est extraordinaire. Il y a des travaux que l'on peut faire, mais aujourd'hui, la machine, l'intelligence artificielle, arrive à le faire exactement comme un homme, mieux qu'un homme, de façon plus rapide, plus précise. Et donc, l'homme peut faire autre chose. C'est vrai que plusieurs métiers se sentent menacés. Plusieurs métiers se sentent menacés.
Mais c'est aussi des opportunités.
Oui, c'est des opportunités réelles. On craint, mais on peut toujours. Il y a des métiers que l'IA ne fera jamais, mais il y a beaucoup de métiers que l'IA fera, mais pour lesquels il peut avoir des... Les acteurs de ce métier-là peuvent s'adapter. Il faut toujours aussi un homme à côté de l'IA. Je suivais la dernière fois au niveau des Nations Unies où ils utilisent des centaines d'interprètes, par exemple, pour les travaux à l'ONU. Ils ont décidé d'utiliser l'IA pour la traduction des documents. Ils se demandent aujourd'hui, est-ce qu'il faut virer tout ce personnel-là parce que toutes ces traditions-là se font de face. Donc, c'est des outils où on a eu peur de les utiliser en Afrique, on a peur, et quand vous prenez Konya par exemple, c'est l'un des objectifs, c'est de faire la promotion de l'IA, faire en sorte que les Africains l'adoptent, parce qu'aujourd'hui les Chinois et les Américains, ils sont en avance, les Européens essaient de suivre.
Ça c'est par rapport à la technologie.
Voilà, oui, mais on a, je crois, comme le disait Gabin, on a quand même des infrastructures, peut-être qu'il faut encore en installer certaines. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'aujourd'hui, on réfléchit à une journée de l'intelligence artificielle africaine. L'IA dont l'Afrique a besoin, selon l'écosystème africain, les besoins de l'Afrique, la culture africaine et tout ça. Et le chef de l'État togolais, justement, parraine cette initiative qui sera portée par l'ONU. Et tout à l'heure, j'écoutais Firmin qui demandait ce que le chef de l'État fait par rapport à l'IA. Mais dans le mois de mars qui vient de finir, il y a eu la présidente de la République, en partenariat avec le Commonwealth, a offert 200 bourses d'études et de formation à des jeunes cadres, à des professionnels et à des étudiants, donc, qui vont pouvoir avoir des certifications et se former donc dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité et puis un certain nombre de choses. Donc, beaucoup de choses se font et le Togo est un peu à l'avant-garde de tout cela et sur notre continent.
Merci beaucoup, cher confrère. Nous allons aborder un autre sujet. On entame maintenant la question politique. Vous savez que la journée d'hier a été une journée spéciale pour ce qui concerne surtout la 5e République, parce que après la mise en place alors de son bureau et l'adoption alors de son règlement intérieur, le Sénat a ouvert officiellement hier jeudi sa première session ordinaire de l'année, comme la nouvelle constitution même d'ailleurs le prévoit. Gabin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur le sujet, quoi de plus normal. Germain, vous êtes revenu sur le sujet en s'intéressant plutôt aussi à ce premier Sénat. Vous écrivez « Premier Sénat du Togo, Barké, président ». C'est ce que vous écrivez. Autre journal, c'est l'Union. L'Union qui titre « Le bureau du Sénat installé cap sur l'élection du président de la République ». Autre journal qui s'intéresse bien sûr au sujet, c'est Togo Matin. Togo Matin qui écrit, bien sûr, Chambre haute, en parlant bien sûr alors du Sénat, Barry Moussa Barké, président du premier Sénat. Un autre journal qui s'intéresse au sujet, c'est bien Harakiri. Harakiri de Olivier Adja qui écrit un Sénat au service de la nation, l'intégralité de son discours. C'est une question que le journal se posait en se demandant un Sénat au service alors de la nation. Alors, on a tous ensemble, Gabin, c'est vrai, on a tous ensemble suivi cette information hier et c'est la première session du Sénat qui a été ouverte. Alors, finalement, comment vous avez apprécié cette session?
Non, c'est une première session et on a tous suivi le discours quand même du président du Sénat. Hein. C'est vrai, c'est lui que les gens voient en avant-garde, c'est lui que les gens disent non, c'est lui le président du Sénat, mais il a un bureau et c'est au-delà du bureau, c'est tout le Sénat qui va travailler quand même pour les Togolais, si on peut le dire ainsi, et ils ne vont pas quand même outrepasser leurs prérogatives, hein, puisque leurs prérogatives sont véritablement contenues dans la dans la nouvelle constitution. Donc, au-delà des discours, c'est vrai, il a manifesté beaucoup de bonnes intentions et autres là, mais disons la vérité, c'est qu'ils ne vont pas outrepasser leurs prérogatives. Ils sont contenus dans des articles bien, bien définis. Et bon, les Togolais attendent beaucoup de choses quand même de cette 5e République.
Tant
vantée, beaucoup de choses, parce que déjà, quand on nous parle de stabilité, que bon, ce régime va permettre une certaine stabilité, donc ce qui permettra forcément. Hier, j'écoutais encore le député Sokelengbe sur vos antennes qui disait que non, ça va permettre quand même le développement. Bon, la question de savoir si le pays, hein, depuis tout ce temps, a été instable. C'est vrai, on a connu quelques périodes d'instabilité, mais je ne pense pas que ça a pu empêcher quand même le développement du pays. Mais quand on met beaucoup plus l'accent sur cette histoire-là de développement, un régime ne fait pas développer un pays. Ce qui fait développer un pays, c'est l'engagement du gouvernement et de la population, et surtout qu'on mette les moyens à disposition de la population. Mais si on dit toujours que non, ce régime parlementaire va permettre la stabilité et ensuite le développement, ben, les Togolais vont attendre le développement et sans véritablement voir le rôle qu'auront joué quand même ces institutions de la 5e République. Le ministre Barquet, bon, on l'a tous connu dans ce pays, hein. Nous, on a écrit son nom quand on était sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, il est encore en poste. Bon, tant qu'il est valide pour pouvoir travailler pour le pays, personne ne va contester. Mais il faut dire que ce sont des noms qui reviennent à chaque moment et c'est devenu redondant. C'est quelqu'un qui a travaillé sous le père, aujourd'hui sous le fils. Il a été ministre des Affaires étrangères, il a été directeur du port, il a été ministre du commerce, ministre à tous les niveaux, ensuite conseiller à la présidente de la République. Ce n'est pas aujourd'hui qui va montrer quelque chose de nouveau. Disons la vérité, ce n'est pas aujourd'hui qui va nous montrer quelque chose de nouveau. Il a déjà fait tout ce qu'il pouvait. Personne ne peut remettre en cause l'intelligence, l'intrépidité, tout ce que ce monsieur-là a fait pour le pays, parce que moi, je ne vais pas quantifier au niveau du bilan par rapport à ce qu'il a fait quand il occupait les différentes fonctions ministérielles. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que, véritablement, est-ce qu'il pourra offrir, puisqu'il en a déjà offert. Et le bureau même, aujourd'hui on voit M. Robert Olympio qui est dans le bureau, M. Komla Mali qui est dans le bureau, Maître Tchassouna Traoré aussi qui fait partie du bureau, M. Le doyen d'âge qui était passé
Koudjolou.
Le Koudjolou, qui aussi fait partie du bureau. Donc moi j'étais un peu étonné de voir que, bon, il n'y avait pas véritablement de, au moins, de ces jeunes-là, Innocent Kagbara, Sénat Alipu, pour insuffler un peu d'énergie quand même à ce bureau-là. Donc, moi, c'est une institution qui a été mise en place. Le président, ils ont mis les hommes de confiance. Et moi, ce qui est encore m'a choqué, c'est que il a été proposé. Le président du Sénat, il a été proposé et élu à l'unanimité. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas véritablement de concurrence. Les gens n'ont pas émis la volonté d'occuper ce poste de présidence là. C'est comme si c'est quelqu'un, ils ont tout trouvé. Bon, c'est lui, quoi. Il faut. Qui suis-je pour me présenter devant un certain Barry Moussa Barké? Et donc, laissons-le, il va être le président du Sénat. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait quand même une compétition, qu'un président soit dégagé. Et là, on saurait que la démocratie est en train de s'exprimer. Mais. Et parmi ceux-là qui sont de l'opposition, qui ont été nommés ou votés, et parmi ceux-là qui sont de la mouvance présidentielle, il n'y a pas eu de concurrence. C'est un peu désolant pour moi.
Merci, Gabin. Oui, Kofi, c'est vrai que quand on écoute parler de certains noms comme Barry Moussa Barké, il y a des gens quand même qui disent que, mais oui, c'est des gens qui sont toujours aux affaires, ils ont travaillé avec le père, ils travaillent avec le fils. Mais est-ce que finalement, puisque le débat a été fait sur beaucoup de réseaux, hein, sur beaucoup de plateformes, j'allais dire, mais est-ce que finalement, est-ce qu'on n'est pas en train, vous avez l'impression qu'on est en train de faire avec toujours les mêmes personnes?
Moi, je n'ai pas cette impression. Je vais dire d'entrée de jeu que Barry Moussa Barké, c'est quand même un grand nom que nous avions tous eu depuis l'enfance. Et c'est un monsieur avec un bagage intellectuel important. Et non seulement du côté du bagage intellectuel, l'expérience qu'il a eue dans la gestion de plusieurs aspects de l'État depuis plusieurs décennies jusqu'à maintenant. Et je me félicite du fait que ce soit lui que l'on est à la tête de ce Sénat-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rôle ou bien l'impact qu'aura le Sénat dans la vie quotidienne des citoyens lambda. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et si aujourd'hui on regarde cette équipe-là, nous avions comme la Mali qui est ancien Premier ministre, nous avons Robert Olimpio de l'UFC, le dissident de l'UFC. Nous avons Maître Mohamed Tchassona Traoré, qui récemment, avant les sénatoriales, avait demandé sa présence au Sénat. Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance.
Vous avez dit UFC, c'est plutôt l'ANC, vous le dites.
L'ANC plutôt. Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance. Nous ne pouvons qu'espérer que leur contribution aux côtés du Parlement, aux côtés de l'Assemblée nationale, soit une contribution positive pour le bien-être de tous les Togolais. Mais ce qui me sidère un peu, c'est que devant la promesse qu'on nous a faite dans cette 5e République, devant toutes les bonnes choses qu'on nous a dites, je pense que ça a mal commencé déjà. Ça a mal commencé parce que je pense que la semaine passée, il y avait eu des partis d'opposition qui s'indignaient du fait que, la CENI devait être renouvelée, mais elle n'a pas été renouvelée. Je me disais qu'au moins, on allait donner un peu du temps pour passer à la table de négociation, pour essayer de trouver les moyens de permettre aux uns et aux autres d'avoir un satisfecit, mais on ne l'a pas fait. Et quelques jours plus tard, j'entends qu'on a déjà fixé les dates des révisions des listes électorales. Moi, ça m'inquiète beaucoup.
C'est du 7 au 23,
oui,
ce mois, bien sûr.
Ça m'inquiète et ça me laisse un peu perplexe sur les bonnes intentions que les uns et les autres ont affiché depuis un moment.
Merci Kofi. Oui, Samy, c'est vrai, quand on prend l'image même d'ailleurs de ce jeudi, l'image du jour, c'était l'accolade entre le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Cette image qui a circulé sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et finalement, on dirait que la 5e République, pas à pas, s'installe.
C'est un fait. Mais permettez-moi de souligner une certaine notion conceptuelle. Vous savez, dans le cas du régime parlementaire togolais, nous avons décidé, selon les dispositions de la Constitution du 6 mai 2024, de faire de l'Assemblée nationale la première chambre du Parlement et de faire du Sénat la seconde chambre du Parlement. Ce sont des expressions consacrées par la Constitution togolaise. Au Togo, nous n'avons pas de la haute chambre. Il n'y a pas ça. Il faut que les gens se ressaisissent. La hiérarchie des normes prônée par Hans Kelsen dit que la Constitution, c'est la loi qui est au-dessus. Voilà, c'est la loi qui est au-dessus. C'est le sommet. Et donc, toutes les normes, c'est pour ça en réalité, quand on adopte une loi, la Cour constitutionnelle fait ce qu'on appelle l'examen de la constitutionnalité d'une loi. Est-ce que cette loi-là n'est pas contraire à la Constitution? Et quand vous prenez l'ordonnance fixant le nombre de sénateurs, les indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant, ainsi que le statut des anciens sénateurs, nulle part il n'est écrit que le Sénat est la haute chambre. Il faut... Si le constituant togolais avait voulu faire du Sénat la haute chambre, on allait l'écrire. La loi organique l'allait aussi le préciser. Donc, au Togo, nous n'avons que la première chambre qui est l'Assemblée nationale et la seconde chambre. Pourquoi? Parce que quand vous prenez l'article 8 de la Constitution, si j'ai bonne mémoire, je peux me tromper de l'article, on dit « Le pouvoir législatif est exercé principalement par l'Assemblée nationale. » Elle est aidée dans ses tâches par le Sénat. Le Sénat, le Constituant togolais a voulu faire le Sénat de la seconde chambre parce que le pouvoir législatif est exercé principalement par l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, quand vous prenez la procédure législative, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Donc comment on peut dire qu'une haute chambre peut ne pas avoir tellement de marge de manœuvre dans la procédure législative? Donc, je pense que...
C'est une précision.
Oui, je voulais faire vraiment ce recadrage lexique et qu'on puisse respecter les thèses de la République. Le deuxième volet, quand vous prenez les deux chambres, les gens ont vanté le Sénat, ben attention, l'Assemblée nationale est la chambre la plus importante du Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent pour élire le président de la République qui n'a pas tellement de pouvoir. Pourquoi on a voulu que l'Assemblée nationale élise seule et désigne seule le président du Conseil des ministres qui concentre dans ses mains tous les pouvoirs de la République? Ça montre l'importance de cette instance-là, de cette institution. Revenons à la séance de droit. Ben, c'est une formalité, hein. Il n'y a pas d'extraordinarité dedans. C'est-à-dire, la session de droit, c'est normal. Ça permet donc à une instance, à une institution qui vient d'être installée avec l'élection des membres et tout ça là, de pouvoir discuter entre eux de comment va s'organiser le règlement intérieur, d'élire le bureau, que les travaux commencent véritablement. C'est tout. C'est ça la session de droit. Et ensuite, maintenant, il y a le bureau, le règlement intérieur est voté. Maintenant, il faut mettre en place les commissions permanentes donc, du Sénat. Je pense qu'elles doivent être au nombre de 7, si j'ai bonne mémoire, et tout ça là. Cette commission et tout. Et donc, ça n'a rien d'extraordinaire. La session de droit, ça n'a rien d'extraordinaire. Le troisième point,
oui,
le président du Sénat, M. Barry Moussa Barké, 16 ans en tant que conseiller spécial du président de la République, plusieurs années en tant que ministre d'État, ministre des Mines, ministre des Transports, directeur du port.
C'est pas trop pour
lui seul, il a occupé énormément de fonctions. Et quand vous prenez notre constitution, la déclaration solennelle des droits et devoirs des personnes, des citoyens, l'annexe qui fait partie intégrante de la constitution, il y a un article qui est très important. L'article 20 qui dit « L'État garantit aux collectivités territoriales et aux citoyens l'accès équitable aux ressources nationales. » C'est-à-dire que le Togo est un petit pays. Quand je dis ça, ça va choquer beaucoup de personnes. Parce que quand on projette le Togo dans plusieurs zones à travers le monde, le Togo, dans d'autres régions du monde, le Togo est un quartier. Le Togo, c'est quoi? C'est un petit, c'est un État. Donc, c'est une région et tout cela. Et donc, quand nous sommes dans un pays comme ça, où les opportunités pour occuper les fonctions nominatives et électives sont moindres, où vous avez des opportunités pour occuper les postes de responsabilité sont moindres, on fait en sorte que les Togolais qui sont compétents, qui remplissent les conditions, puissent également avoir l'occasion d'occuper des postes. Parce que Barry Moussa Barké, au moment où lui, il commençait par être ministre, vous imaginez l'âge qu'il avait. Beaucoup de personnes au sein du parti Unir attendaient également leur tour pour être ministre. Si des personnes qui ont aujourd'hui 82 ans se disent qu'ils sont toujours indispensables, ben, Pascal, pour être président du Sénat, vous pouvez être président du Sénat, hein, que personne ne vous trompe, hein. Vous avez toutes les compétences nécessaires pour être président du Sénat. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Moi-même, je peux être président du Sénat.
Est-ce que je voulais dire?
Parce que j'ai des compétences pour être président du Sénat. Et tous les Togolais sont potentiellement compétents pour être président du Sénat. Donc, dire que Barry Moussa Barké, c'était un grand homme, très d'expérience, chancelier, nous, excuse-moi, on n'a rien à foutre avec ça. Et moi, je suis de ceux qui pensent véritablement que lorsqu'on a eu la chance de servir le pays à un niveau donné de responsabilité, à un moment donné, il faut se retirer. Il faut permettre à ce que un certain nombre de personnes, parce qu'à 82 ans, on a beaucoup fait pour le pays. D'accord. Il faut permettre à un certain nombre de personnes de pouvoir également servir l'État à ses hautes fonctions.
Merci, Samy. Oui, quand on lit le journal Le Canard indépendant sur le sujet, Le Canard indépendant écrit « Institution de la 5e République force repli sur ses fidèles » avec la photo alors du président de la République et le président du Sénat, bien sûr, à la une, bien sûr. Mais finalement, on ne peut que faire avec ses fidèles.
Bien évidemment, non, moi je ne vois pas ça comme ça. Moi je me dis que, bon, avant de développer ce que j'avais à dire, moi je me dis qu'en réalité, Faure Gnassingbé, après 20 ans au pouvoir, il s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'il n'a pas réussi à faire. Et qu'il a eu un certain nombre de conseillers avec lui, il a eu à composer avec un certain nombre de personnes. Il y a des critiques aujourd'hui qui fusent un peu partout. Quand des gens voient les voisins, tout ça, les gens comparent Faure Gnassingbé au pays voisin en disant qu'il y a des choses que Faure Gnassingbé devait faire, devait pas faire. Peut-être il s'est dit, bon, je me suis entouré de telle ou telle personne, dont les Barké, les Dramani, tout ça, les Comment Mali. Mais aujourd'hui, je n'ai plus trop besoin d'eux à mes côtés comme conseiller. Donc il faut que je les envoie au Sénat. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Donc pour avoir de nouveaux conseillers.
C'est votre analyse,
c'est mon analyse, parce que je peux se dire, en réalité, il y a de nouvelles, vous parlez de hier tout à l'heure, il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouvelles orientations. Je suis président du conseil encore pour 6 ans, peut-être on va encore me renouveler mon mandat à la tête de UNI en peut-être 12 ans ou peut-être 18 ans. Donc il faudrait que j'arrive à surprendre les Togolais, il faut que dans les années à venir, j'arrive à construire un Togo moderne, un Togo qui réponde aux exigences du 21e siècle. Donc les Barry Moussa remarqué, ils ont existé. Et donc, s'ils vont encore exister, donc peut-être il faut que je les envoie au Sénat pour qu'ils usent un peu de leur sagesse ou mettent leur sagesse à la disposition de la République togolaise. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Donc, ce n'est pas une question de fidèle. Je dis, bon, je n'ai plus trop besoin d'eux à mes côtés. Maintenant, la deuxième chose, quand Samir Oussama disait tout à l'heure que c'est le président, l'Assemblée nationale qui désigne. Non, personne ne désigne le président du Conseil. Personne au Togo. Le président du Conseil sont les électeurs qui le désignent indirectement. C'est-à-dire que lorsqu'on va aux législatives, lorsque le parti qui a plus de voix, qui est majoritaire, c'est son chef qui devient automatiquement président du Conseil. L'article 47 le dit. Bien évidemment, le chef du parti majoritaire ou le chef du parti, du premier parti de la coalition, jouissant d'une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives et après proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, devient président du Conseil. Donc, personne. Donc, ce que l'Assemblée nationale fait, c'est juste de la formalité. Donc, le parti majoritaire envoie le nom de son patron à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale envoie ce nom à la Cour constitutionnelle qui prépare la prestation de serment.
On dit la même chose, infirmière.
Oui, donc,
on dit la même chose.
L'Assemblée nationale se réunit et désigne le président du parti majoritaire.
C'est le parti majoritaire la coalition qui a la majorité qui envoie le nom de leur chef à l'Assemblée nationale. Maintenant, l'Assemblée nationale entérine ce nom et ensuite envoie ce nom au Conseil constitutionnel qui prépare la prestation de ce nom.
On connaît déjà la personne.
Voilà.
Donc, l'Assemblée nationale n'a aucun rôle en ce qui concerne la législative. Lorsqu'on va aux législatives, non, on sait déjà qui sera le prochain président du Conseil.
D'accord.
Voilà.
Mais
oui. Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi la Coupe du Monde 2002. C'était le Brésil qui avait gagné.
Et qu'est-ce que la Coupe du Monde devait faire?
Le Brésil qui avait gagné. Et le meilleur buteur de cette compétition à l'époque, c'était Ronaldo. Vous savez, le soir, j'ai suivi un reportage. Parce que Ronaldo venait d'une blessure de 2 ans. Et on a dit, celui-là, j'ai gardé la phrase. Ça fait 23 ans. On dit, celui-là qu'on croyait perdu dans la nature a prouvé au monde entier qu'il est de retour. Je voudrais parler de Barry Moussa Barké. Ça veut dire, arrivé à un moment donné, on ne le voyait plus sur les écrans. Maintenant, d'une manière extraordinaire, on le voit encore sur les écrans. C'est extraordinaire. Je me dis, il a une aura pas possible. Qu'est-ce qu'il vient encore chercher aujourd'hui à la tête du Sénat? Je me dis, peut-être que quelque chose... Il y a quelque chose peut-être qu'il n'a pas pu faire et qu'il pourrait faire. Et moi, je vais vous surprendre. Moi, c'est la première fois que j'ai eu à écouter la voix de Barry Moussa Barké. Lorsque j'ai suivi son discours, je ne l'avais jamais écouté. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. Mais je n'ai jamais écouté Barry Moussa Barké parler. Et quand j'ai suivi un peu le contenu de son discours, mais je me disais, mais il avait quelque chose. Mais est-ce que Vitamine a véritablement servi? Parce que je vois une certaine intelligence. Quand je vois que les mots sont sabrement bien choisis, je me dis, ce monsieur avait quelque chose. Donc, moi, je respecte. Mais je demande, c'est la troisième chose, s'il pourrait mettre sa sagesse au service de la nation pour qu'on puisse avoir un Togo réconcilié avec lui-même.
D'accord, merci. Jamais, est-ce que nous avons tous ensemble appris que Barry Moussa Barké est le président du Sénat, est-ce que vous avez été surpris?
Non, je n'ai pas été surpris. Vous savez que la session inaugurale avait été présidée par le ministre Dogo, qui est le doyen d'âge. Et il a surpris les gens avec son discours. Il n'avait même pas de papier pratiquement. Avec son âge, comme doyen d'âge, les gens étaient surpris. Et quand on parle de Barké, depuis que je suis né, depuis les années 80, nous on entend parler de Barké. Et je ne l'ai jamais vu de près, mais j'ai eu la chance de discuter 15 minutes, 12 à 15 minutes avec le personnage. Et il est dense, il a une idée sur tous les sujets, y compris même la presse, parce qu'on a bien parlé de la presse, j'étais vraiment choqué. Et le gars a une intelligence beaucoup plus fraîche que plusieurs parmi nous ici, hein. Quand moi j'entendais les gens... Moi j'ai eu la chance de discuter une seule fois, et c'est même la seule fois où je l'ai vu à moins d'un mètre. Depuis là, je ne l'ai plus revu. C'est extraordinaire. Donc c'est quand... On dit, bon, tout le monde peut être président du Sénat ici. Ça me fait sourire. Tout le monde peut être député, tout le monde. Oui, ça, c'est vrai. Ça, devant la loi, tout le monde peut Mais après, il y a des compétences. Quelqu'un qui a occupé certains postes et qui les a gérés jusqu'à... Bah, c'est comme vous dites que quand on dit Barker est conseil du chef de l'État, on suppose que le chef de l'État ne connaît pas, il a pris quelqu'un qui n'est pas valable pour le conseiller. Quand on dit Barker était ministre, déjà du port, grand chancelier même dernièrement, c'est comme si il n'a pas des compétences. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Au Togo, moi je ne vais pas parler de son diplôme, moi je parle juste en termes d'expérience et de savoir-faire de l'homme. Moi, j'ai eu la chance de l'écouter une seule fois. Et donc, quand on le dit, je disais à quelqu'un qui, sur ce même débat dans le quartier, il dit, mais Barker dans sa tête, il est plus frais que toi. Il dit, non, je dis si. Après, on se trompe. Il y a des gens qui sont vieux, mais la tête est toujours jeune. Hein? Il y a des gens qui ont ce don-là. Maintenant, c'est une somme d'expérience. C'est les sénateurs qui l'ont élu à l'unanimité. Ça dit qu'eux, ils ne connaissent même pas la valeur de l'homme avant de le mettre. Et après, le Sénat, ce n'est pas forcément le président. Il y a tous les autres membres du bureau. Il y a des commissions. Il y a les groupes parlementaires même. Donc, c'est tout un fonctionnement. Il y a une administration. Donc, ce n'est pas le président qui fait le Sénat. Mais après, à partir du moment où il n'y a pas eu de candidat en face de lui, c'est qu'il y a eu un certain consensus autour des compétences et des capacités de cette personnalité-là à faire le travail. Maintenant, on peut dire qu'il n'y a pas que Barker, ça fait plus de 40 ans qu'il occupe des postes. On peut dire il peut se... Voilà. Mais ça se passe dans tous les pays. Vous allez voir la dernière
fois... Le Togo ne fait pas l'exception.
La dernière fois, quand on me dit qu'un certain Manuel Valls, qui était premier ministre, est devenu ministre, s'occupe des territoires de Trumain. Je dis, mais attends, il vient chercher quoi là? Mais c'est normal. Tant qu'il y a des compétences sur lesquelles on peut jouer à des moments donnés.
Merci.
Et ce Barker, moi je pense qu'il y a une certaine unanimité, même quand on parle des anciens barons du RPT à l'époque, quand on flingue les gens, c'est celui-là que beaucoup épargnent parce qu'on ne lui connaît pas trop de casserole, il y a une certaine unanimité, il y a un certain respect pour l'homme. Et moi, je crois que nous, en tant que jeunes, on ne va pas donner un coup de pied dans cette réputation-là pour dire non, non, on ne peut pas le faire.
D'accord.
Nous n'avons pas la carrure pour le faire. Oui. Peut-être nous aurons cette carrure un jour, je ne doute pas de notre intelligence. Oui. Dans 20 ans, 30 ans, Samir, peut-être, tu pourras prétendre faire mieux que Barker. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je discute avec toi. J'ai eu la chance une fois de discuter avec Barker une seule fois.
Non, mais,
je t'ai surpris.
D'accord, merci. S'il vous plaît. Vous savez, notre temps est déjà avancé. Mais je voudrais quand même qu'on aborde le dernier sujet. Là, nous serons très laconiques. C'est-à-dire très bref. C'est par rapport surtout à la municipale de 2025. Ouais. Et c'est vrai, il y a l'ANC qui a fait une sortie hier pour dénoncer les préparatifs alors de ces municipales. Et d'une préparation unilatérale. Et c'est vrai, quand je suivais sur les réseaux sociaux avec cette information, il y a des gens quand même qui disent que ça recommence. Alors, Kofi, est-ce qu'on a l'impression vraiment que ça recommence?
Tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure que ça a déjà mal commencé. Parce que nous avions eu la sortie du MPDD, je pense, la semaine passée,
surpassé plutôt,
par rapport au fait que la CENI ne soit pas renouvelée en respect des textes en vigueur, parce que déjà depuis 2022, nous avions la même CENI et elle aurait dû être renouvelée un an après. Nous sommes déjà en 2025, 3 ans plus tard, et on part à une élection municipale avec la même CENI. Et quand des partis d'opposition sont en train de crier, de demander à ce que les normes soient respectées, c'est comme si on foule au pied ce qu'ils disent et on veut passer à force. Et ça commence déjà mal pour nous.
Gabin, il y a le journal Le Canard indépendant qui titre sur le sujet élection municipale. Nathanaël Olympio s'oppose, Fabre exige de la transparence.
Oui, vous savez, il faut quand même féliciter ces partis de l'opposition, surtout l'ANC qui, depuis un certain moment, depuis belle lurette, hein, fait quand même de cette affaire de fichier électoral son cheval de bataille. Et la dernière fois, moi, je m'attendais à ce que, bon, l'ANC, connaissant l'opposition, qu'il dise non, ils ne vont même pas appeler les gens à aller se faire enregistrer et à se faire enrôler. Mais c'est si m'a épaté, ils ont demandé aux Togolais d'aller se faire enrôler en attendant que le gouvernement fasse les choses dans les normes. Et puis, vous savez, un pays, c'est régi par des tests et nous devons faire les choses en respectant les tests. Quand on demande à la CENU d'être renouvelée chaque un an, ben, depuis 2022, en 2023, on n'a pas renouvelé la CENI, en 2024, on n'a pas renouvelé la CENI, en 2025, la CENI ne continue pas à travailler. Ben, sur quelle base? Quand on sait très bien que ce sont les partis politiques qui avoient quand même leurs représentants à la CENI aujourd'hui, celui-là qui travaille au nom de l'ANC et qu'on a demandé de regagner la maison. Aujourd'hui, il est encore là, mais au nom de quel parti? Donc, à un moment donné, faisons les choses dans les normes pour qu'on ne dise pas que non, les partis de l'opposition sont alarmistes et autres. Là.
Merci, Gabin. Samy, c'est quoi votre analyse sur le sujet?
Mais vous savez que la question a été au cœur des discussions dans le cadre de la réunion du cadre permanent de concertation. Je pense que le ministre chargé de l'administration territoriale a reconnu qu'il faut renouveler donc la CENI. Il a même dit à l'issue de cette réunion que le sujet est en examen, que le sujet est en examen donc au niveau de l'Assemblée nationale et que bon, pour le moment, l'actuelle CENI peut continuer par faire le travail. Pourquoi est-ce que les partis politiques s'inquiètent? Je vais être beaucoup plus bref. Parce que quand vous regardez la composition de la CENI, c'est que les démembrements de la CENI, leur composition est la conséquence de la composition de la CENI. Je veux parler des CELI, la Commission électorale locale indépendante. Je veux parler des comités des listes écartées. Parce que c'est ces comités-là qui vont se charger de la révision des listes électorales. Des opérations donc de révision des listes électorales. Donc pour les partis politiques, il est important que dès le départ, que les règles du jeu soient claires, que chacun soit situé. Parce que aujourd'hui, ni la CENI n'est ni dans une situation de permanence, la CENI n'est non plus dans une situation de rester en place jusqu'au renouvellement, la CENI est dans une situation illégale, dans une situation irrégulière, dans une situation illégitime. Et comme vous savez qu'en Afrique, même... Parce que quand les gens disent que la CENI ne veut pas démissionner, les gens ont comme l'impression que la CENI, c'est seulement les représentants du parti au pouvoir. Non, il y a les opposants au niveau de la CENI. Ils sont sept. Donc, vous voyez, en Afrique, nous avons cette culture-là. Lorsque nous sommes quelque part où nous avons des avantages, il est difficile qu'on puisse démissionner de nous-mêmes. Parce que rien n'empêche les représentants de l'opposition de démissionner et de boycotter les activités de la CENI.
Merci, Samy. Oui, Femme,
rapidement, 30 secondes. Vous savez, les prochaines élections, après celles locales, les prochaines élections que nous aurons, ce sera dans 6 ans. Hein. C'est ça même la stabilité électorale que donne cette constitution. Donc, il faudrait que les choses se fassent dans l'ordre. Il faut que les discussions sérieuses s'engagent ou soient engagées au niveau du CPC. C'est comme ça les appels, non?
Oui,
CPC. CPC, là, pour que des choses se passent bien et pour que la population puisse véritablement participer.
Merci. Oui, Jamin?
Oui, non, je crois que le CPC a demandé qu'on recompose la CENI, mais en attendant cette recomposition, celle qui est la fonction. Donc, il y a un rendez-vous électoral, il faut le préparer. Et il faut le faire, la révision des listes et tout ça, il faut le faire. Maintenant, c'est pas les représentants des partis politiques qui font le boulot. Il y a une administration de la CENI qui le fait avec des opérateurs de saisie qui sont recrutés généralement sur aucune base partisane. Hein. C'est des jeunes qu'on recrute comme ça qui font le boulot. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Le moment, je pense, viendra où il faut peut-être retoucher à la composition. Et les acteurs politiques s'entendront pour cela en respectant les lois. Il y a la loi qui a prévu la composition. Mais là encore, on revient à la case départ. Est-ce qu'il ne faut pas penser à une CENI technique pour ne pas avoir à chaque fois, selon les humeurs des partis politiques,
justement, la question se pose
à recomposer la CENI? Donc, est-ce qu'il ne faut pas
la question évoluer se pose toujours. Merci d'avoir évoqué la question. Et nous allons maintenant écouter aussi les auditeurs, nos compatriotes, puisque nous avons mené le débat, ils nous ont écoutés. On va maintenant leur donner la parole. Ils vont s'exprimer sur nos deux numéros, 90 86 35 35 91 36 63 75, et aussi sur notre numéro WhatsApp, 90 45 78 57. Mais bien avant, nous allons écouter ceux qui font avancer cette émission.
93.5 Canal FM. Canal FM.
Nous Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez vous exprimer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse et également nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Nous avons notre premier auditeur en ligne.
Bonjour Pascal.
Oui, Basile, j'espère que vous allez bien.
Oui, tout glaisement, oui.
D'accord, allez-y.
Bon, l'intelligence artificielle, moi, ce qui vient lire sur le YouTube, là, je ne sais pas si c'est pour le Togo qui est comme ça, mais ça ne me plaît pas. Je vais dire à Tumé que personne ne s'attaque à sa personne. Mais est-ce qu'il sait que quand il vient comme ça, il ne juge que par les bienfaits de ce pouvoir, il est en train de s'attaquer à une grande majorité de la population.
Allô, Basile.
Oui.
Je voudrais que vous exprimiez plus sur les sujets débattus au Club de la Presse. Je pense que c'est mieux.
À l'ensemble, qu'est-ce qu'il a dit?
Oui, mais je voudrais lancer maintenant la parole par rapport aux auditeurs. Je vous ai dit que vous devez vous exprimer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Nous n'avons pas débattu de ce sujet.
Ah, c'est d'accord.
D'accord. Et merci.
Est-ce qu'on peut savoir comment on nous prend? Hier, le député là est venu. Je n'ai pas pu, mais j'étais toujours en ligne. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Hein.
Pardon, je n'ai pas compris.
Oui, mais moi, quelqu'un est en train de parler. Moi, je sonne et ça sonne. Comment celui-là peut finir de parler, mais on va prendre une autre personne?
Non, il y a beaucoup de personnes en ligne, Basile. Beaucoup
non,
de personnes.
Moi, je suis en train de sonner et ça sonne.
Il n'y a absolument rien pour le choix des auditeurs. C'est que notre technicien prend juste celui qui est rentré en ligne, c'est ça. Merci beaucoup, Basile. On va donner la parole à d'autres personnes. 90, 86, 35, 35. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Pélé.
Oui.
Oui, allez-y, Pélé.
Ok. Je salue le plateau. Je pense que c'est toujours la préoccupation des Togolais, hein, la fameuse 5e République, qu'on est en train d'installer, ça constitue le peuple. Et on a l'habitude de le dire que le régime RPTI est un régime illégitime. C'est pourquoi il fait des choses illégales. Quand vous voyez aujourd'hui la composition de la CENI actuelle qui organise, qui a commencé par organiser des élections, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, c'est illégal. Une CENI qui a installé depuis 2022, renouvelable, un an, qui n'a jamais été renouvelée. Maintenant, on l'impose à la population togolaise avec une force brutale. Tout ce que vous allez faire, c'est ça. C'est-à-dire, la loi est là. La loi écrite par le RPT lui-même. Mais qui ne veut même pas respecter la loi? Tout à l'heure, tu me parlais de le texte là. C'est comme le président du PCM. Eh bien, le PCM doit être élu automatiquement par le parti majoritaire. Ce qui est normal. Si c'est la loi, d'accord. Maintenant, ces élections, c'est-à-dire l'Assemblée qui est installée là, les élections ont eu lieu quand? Les élections ont commencé le 29 avril 2023. C'est là le début du recensement. Et 2024, on a organisé cette élection-là. Avant qu'on vienne de nous imposer maintenant que c'est ça, c'est le nombre, c'est ce Parlement-là, le parti majorité qui devient automatiquement le président de la République. Vous voyez qu'on a mis la série devant les deux. C'est la mauvaise foi du régime en place. C'est ça qui fait le problème.
Merci beaucoup.
Je voudrais parler automatiquement. Oui, je vais surtout parler de M. Barry Moussa Baké.
Oui, allez-y rapidement.
Que tout le monde avait dit qu'il faut faire comme Barry. Oui, d'accord. Il faut faire comme Barry. Aujourd'hui, je pense que les Togolais peuvent dire qu'il veut faire comme Adé Bayo. Mais quel Togolais vous avez expliqué qu'il veut faire comme Barry? C'est parce qu'il est dans un système qui ne plaît pas à la population. Mais les gens veulent être comme Adé Bayo. Mais les gens ne veulent pas être comme Barry. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Barry Moussa Baké va se corriger pour qu'on pour qu'on ne fasse pas comme Adebayo.
Merci. Merci beaucoup, Pélé. Pélé, vous avez été largement compris. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Bonjour, Canal FM. Quand on manque de l'eau dans les robinets à la capitale pendant des journées entières et puis on court derrière l'IA, je me pose la question si on n'est pas opportuniste dans nos choix pour le développement de nos États. Pour mon pays, on n'a pas les bases pour implémenter l'IA. Cessez de nous bluffer. On attend des choses plus réelles dans le quotidien du Togolais. C'est Ibrahim qui nous écrit, hein, bien sûr, qui réagit à travers notre numéro WhatsApp 90 86 35 35. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Ça va, c'est M. Kofi.
Oui, Kofi.
Oui, allez-y.
Ok, bon, du coup, je crois que vous avez dit beaucoup de choses. Mais depuis un temps, il y a un test qu'on a voté à l'Assemblée nationale et que aujourd'hui, ça fait trois, sincèrement, ce n'est pas du tout bon. Par exemple, notre frère même qui est sur votre chaîne là-bas, je crois que c'est un otage. Et tous ceux qui aujourd'hui sont à l'Assemblée, même à la Sénat, c'est des otages. Et sinon, bon, ce que quelqu'un qui devait faire un mandat et continuer son mandat, et après on l'a laissé finir. Après, on a renouvelé. Et il a fait au jour d'aujourd'hui 20 ans. Parce qu'à cause de lui, on a encore modifié un test pour qu'il puisse continuer. Ce n'est pas de bonne foi. Et là, bon, je crois que vraiment, sincèrement, ça ne va pas, même au sein du parti Unir. On pouvait peut-être faire confiance à quelqu'un. Et s'ils sont autour et qu'on ne leur fait pas confiance, personne parmi eux là-bas, on ne leur fait pas confiance pour pouvoir leur porter haut, pour qu'ils soient président de la République, par vote ou par élection. Quelqu'un tout à l'heure vient de dire l'Assemblée a été votée avant qu'on ne fasse savoir aux gens que c'est la partie majoritaire qui deviendra un président. Et là, sur ce, sincèrement, les gens n'ont qu'à vraiment voir. Même l'élection qu'on avait faite, ça a porté les gens au niveau de l'Assemblée. Ce n'était pas ça. Et ça n'a pas été très bien organisé.
Merci beaucoup, M. Kofi.
Et parfois, je crois qu'on opprime les gens. Même tout le monde est pris en otage. Quand tu parles, même on te prend, on te met au mousse.
Mais là, vous, M. Kofi,
oui.
Là, vous parlez. Je ne pense pas que vous êtes inquiété.
Non, on parle, mais même quand les gens vont pour faire la marche, des fois on guette les gens et on leur trouve quelque chose et on leur colle et on leur met.
D'accord, ok, merci. On va donner la parole.
On parle,
merci beaucoup, Kofi. Kofi, merci beaucoup. On va donner la parole à d'autres personnes. Ils sont nombreux. Salut le plateau. Depuis longtemps, ce sont les mêmes personnes ou les mêmes têtes qui sont aux commandes. Et ceci, malgré leur bagage intellectuel, le Togo est au bord du gouffre. À vrai dire, ils n'avaient rien fait et ne feront rien pour ce pays. C'est Edmond qui nous écoute depuis nos pâteaux. 90, 86, 35, 35. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô?
Oui,
bonjour.
Bonjour, grand frère.
Oui, Benoît.
Oui, grand frère.
J'espère que vous allez bien.
Eh oui, je vais bien.
Allez-y.
Je salue le plateau.
Et le plateau aussi vous salue.
Vous avez parlé de l'IA, que ça va nous aider au niveau de l'agriculture, quoi. Ce serait une bonne chose, hein. Avec le manque d'emploi et à l'intérieur du pays chercher des terrains, avec l'IA construire des dortoirs, après les jeunes avec IAP, Internet, Wi-Fi là. Et ce sera un gagnant-gagnant, quoi, pour qu'il y aura de la nourriture. Parce que c'est la seule chose que Jésus a fait pour qu'on lui a, le peuple lui a dit qu'on va le nommer roi. Mais pour ce qui concerne le Sénat, mes frères, nous allons parler, mais on ne va rien changer. Revoyons plutôt l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. Merci et bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission 90-86-35-35. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
C'est monsieur?
C'est Bessin.
Ah, monsieur Bessin.
Oui, oui.
Oui, allez-y.
C'est pour parler de notre réseau parlementaire. Ce que moi je vois ici, le Sénat n'a pas un rôle, hein. Il a un rôle d'épouvantail. Parce qu'on dit ici que lorsque les deux chambres se réunissent en séance conjointe, le président et le bureau sont ceux de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le Sénat, c'est un accompagnateur. Dans l'accompagnateur, il ne fait rien. Il ne fait rien. Et ce régime parlementaire, c'est à l'image du Togo. Puisque le président du conseil, qui est le premier ministre, n'est pas élu. Il n'est pas élu comme on fait ça. Il doit participer aux élections législatives. Il est élu député. Et ils sont majoritaires. Et on les lit comme président du conseil. Donc c'est un parlement ou bien un régime parlementaire à l'image du Togo. Merci.
Merci, M. Bessin, pour votre intervention. Et je pense que vous êtes le dernier auditeur hein, pour le compte lors de cette émission. Il y a beaucoup qui nous ont envoyé de messages et ils ont réagi à travers notre numéro WhatsApp. Par exemple, il y a Edem qui écrit « Bonjour, Pascal. Excusez-moi vraiment, mais si nous reconnaissons que M. Barry Moussa Baké a fait un long chemin dans la gestion de notre pays, est-ce que vous pouvez me donner un seul exemple de ce qu'il a apporté concrètement au développement de ce pays? » C'est une question que Edem pose. Nous allons revenir en plateau, chers débatteurs, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Kofi, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer aussi sur l'actualité et votre réaction?
Merci Pascal, moi je n'aimerais pas réagir sur ce qu'ont dit les auditeurs, j'aimerais plutôt appeler à la conscience de nos concitoyens. Écoutez, ce pays nous appartient à nous tous et nous devons le construire main dans la main. Ce n'est pas normal pour nous de fouler au pied les textes et les lois qui régissent notre République et de s'attendre à ce que les gouvernants puissent faire autrement. Comment est-ce que vous vous permettez de vous mettre sur la voie publique et de violer les feux comme vous voulez? Vous mettez en danger non seulement votre vie, mais la vie des autres qui sont sur la voie comme vous. Apprenons à respecter ce qu'on doit respecter pour que ce pays puisse avancer. Merci.
Merci, Kofi. Oui, Germain.
Oui, ben, nous, on se félicite de la mise en place progressive et presque définitive donc, des institutions de la Ve République. Le Sénat est désormais fonctionnel. On salue la présence de l'opposition au sein de ce Sénat, des membres de l'opposition, même dans le bureau du Sénat. On espère qu'ils vont former un groupe parlementaire au Sénat qui sera capable d'équilibrer le débat, parce que notre crainte au départ, quand on a connu le corps électoral pour ce sénatorial, on se disait qu'il n'ira la tour à flair. Aujourd'hui, avec le dialogue, il y a des opposants qui sont présents au sein de ce Sénat. Et on espère qu'ils vont jouer leur partition, qu'ils vont vraiment participer à l'équilibre et à la richesse des débats au sein de cette chambre-là, qui est une première dans notre pays. On n'en a pas connu, et donc vivement que le Sénat réussisse sa mission.
Gabin?
Oui, merci de m'avoir invité. J'aimerais inviter tout le monde à la prudence pendant le week-end.
D'accord, merci. Oui, Samir?
Mais écoutez, moi, je voudrais souligner le fait que dans le cadre de la construction de notre démocratie, du renforcement de l'état de droit, il est important que nous puissions faire en sorte que les élections antérieures que nous avons eues à organiser et les élections à venir, c'est-à-dire les élections que nous aurons à organiser à l'avenir, qu'on puisse faire en sorte que les élections à venir soient meilleures que les élections antérieures. Cela ne semble pas être le cas. Je pense que les acteurs politiques doivent prendre conscience de cette situation-là. Et il n'y a qu'un seul cadre pour pouvoir discuter de ces questions politiques. Au-delà des questions politiques, les questions sociales et économiques, beaucoup d'acteurs politiques ont appelé à être consultés sur ces questions électoralistes. Je pense que le cadre permanent et de concertation est un cadre idéal. Vous savez, on peut ne pas
avoir raison lorsqu'on participe à des échanges, mais le seul fait de se prononcer, d'être entendu, c'est déjà une avancée. Et donc le défi majeur que nous avons dans la mise en œuvre donc de cette 5e République, avec les prochaines semaines, l'élection du président, la désignation donc du président de la République et puis la désignation du président du Conseil des ministres et l'élection du président de la République, c'est de faire en sorte que les voix discordantes, ceux qui critiquent cette réforme-là, c'est de faire en sorte que leurs préoccupations, leurs réserves, leurs critiques soient prises en compte. Parce que comme l'a dit quelqu'un, c'est ensemble que nous arriverons à construire ce pays-là. Le Togo est un patrimoine commun. Personne n'a le titre foncier du Togo. Le Togo nous appartient à nous tous. C'est à nous tous de faire en sorte que ce Togo-là soit vivable, que ce Togo-là puisse nous apporter de quoi vivre et puis continuer à travailler.
Merci Samir. Oui, Fleming.
Moi, ce que je vais dire, c'est beaucoup plus à titre subjectif. Moi, je suis très heureux que le Togo dispose aujourd'hui d'un Sénat. Ça va enrichir peut-être, ou ça va apporter un plus au débat politique de notre pays. Aussi heureux parce que c'est ma première fois d'écouter Barker parler. À l'avenir, je vais chercher à aller le rencontrer pour m'abreuver un peu de sa connaissance et de toute son expérience.
Merci beaucoup, Fleurmet, Teko, Agbo. Vous êtes bien sûr chroniqueur politique. Merci d'être passé dans cette émission. Kofi, merci. Kofi Annani, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé. Merci, Germain Pouli, directeur de publication de Zoronal Togo Réveil. Merci d'être passé dans cette émission. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et aussi analyste politique. Merci d'être passé dans cette émission. Samir Ourosama, merci d'être passé dans cette émission.
Merci de m'avoir invité également.
Cette première expérience même avec nous. Et je pense quand même que ça a plu aux auditeurs. Et finalement, vous êtes même dans l'aventure comme cela. Merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes juriste et aussi défenseur des droits humains. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat, merci à vous. Merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne alors de cette émission. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et surtout portez-vous bien et prenez soin de vous.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.